chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Radio Courtoisie, dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Iba. Donc Iba, on a beaucoup à dire sur Iba. Alors Iba, thème de l'émission, Iba sculpteur. Oui, c'est sculpteur, elle ne veut pas qu'on dise sculptrice.
Ouais,
d'accord. Alors sculpteur, l'expressivité de la beauté vraie de la vie. Donc ça, c'est le thème de l'émission. Donc, je vais rapidement faire un historique de d'Iba. Donc, lors d'un voyage en 1994, Iba tombe sous le charme des rues pittoresques de Prague et ressent le besoin, l'envie de s'essayer au dessin et à la peinture. En 1993, aux ateliers du Pavillon des Arts à Pantin, où Dominique Gamet, peintre, lui enseigne les différentes techniques de dessin, croquis à la plume, peinture, ainsi que celles du collage et de la gravure. Donc je constate quand même que c'était en 1993.
Oui.
Donc c'est venu assez tard.
C'est venu assez tard, oui, oui. Commencer d'abord par le dessin, mais j'ai toujours un peu gribouillé, dessiné, voilà. Mais m'y mettre, c'était à ce moment-là. Et en plus, à Fontainebleau, sur les rochers, j'ai commencé à gribouiller.
Voilà. À Fontainebleau?
Oui, à Fontainebleau, c'est pour ça que je dis.
Ah, vous avez commencé à Fontainebleau?
Oui, 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 oui. Je crois que vous êtes de Fontainebleau, non?
Oui, oui.
Voilà.
Ouais. Donc, vous avez commencé donc, la sculpture à, tout de suite?
Non.
Ça vous a plu tout de suite, la sculpture? Pourquoi la sculpture?
J'y suis passée très rapidement, en fait. Je suis ensuite... j'ai touché un petit peu à la taille douce avec sur les plaques de métal. J'ai fait de la peinture, des collages, toutes sortes au niveau artistique, papier, voilà. Et tout de suite, je suis rentrée avec. J'ai voulu faire des matières telles que les pastel sec et surtout le pastel gras. Le pastel gras m'a donné l'opportunité.
Parce qu'on sculpte un peu avec le pastel gras.
Exactement.
Sur la feuille.
Et c'est là où je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée quand j'ai commencé à toucher et à mélanger la matière en elle-même. Et tout mon corps y était, quoi. Vraiment,
j'étais imprégnée. Il y avait une osmose complète entre
complète. Et donc, voilà. J'ai fait des grands panneaux sur les murs, chez moi. Et j'ai fait genre un artichaut, le cœur d'un artichaut, mais grand de 3-4 mètres de large, quoi. Et je suis rentrée dans la matière.
C'était un cœur d'artichaut, alors.
Je suis un cœur d'artichaut. Exactement.
Et donc, moi, ce qui là où ça m'interpelle, je vous l'ai déjà dit, c'est en 93, c'est quand même, je veux dire, vous auriez pu commencer avant.
Complètement, mais à ce moment-là, on m'appellerait.
Mais quel déclic il y a eu en 93? Comment c'est venu ce séjour à Prague? L'architecture qui vous a inspiré?
L'architecture, j'aime beaucoup tout ce qui est de l'art nouveau, l'art déco. Toute cette période-là me sensibilise. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Ça a toujours été ce côté libérateur de l'époque. Et libération de la femme, libération des mœurs. En fait, le renouveau complet. Du point de vue artistique.
C'était donc, une libération, en fait, pour vous?
Oui, 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 complètement. Je me suis émerveillée.
C'était votre voix?
Voilà, voilà. Exactement.
Et donc, alors, on a dit, donc, vous avez commencé par la taille douce, par faire du dessin, déjà, beaucoup de dessin.
Beaucoup de dessin.
Pour bien comprendre le corps, comment il fonctionne.
Voilà. Et ensuite, je me suis retrouvée dans mes voyages, puisque je voyageais beaucoup à l'époque. Je voyageais beaucoup à l'époque.
C'est-à-dire plus maintenant?
À notre chantement, exactement.
Ok, d'accord.
Pas dans les mêmes conditions, en tout cas. Et donc, je me suis retrouvée à l'époque dans la chapelle Sixtine où j'avais vu donc, la Pietà. La Pietà de Michel-Ange. Et à cette époque-là, on était vraiment, on pouvait la toucher, quoi. Il n'y avait pas des barrières, il n'y avait rien.
Maintenant, c'est plus possible.
Maintenant, ce n'est plus possible.
Ah, c'est plus possible.
Mais j'ai eu les larmes qui ont coulé. J'ai eu une émotion, une grande émotion, et de voir du marbre, quelque chose de froid quand on le touche, froid, être aussi chaud dans mon cœur.
Voilà, et je dis, ça voilà, vous a réchauffé le cœur.
Voilà, complètement. Et cette humanité ouais, entre la mère et l'enfant, et puis cette et l'enfant, donc l'enfant, le Christ, qui gît et qui est en train de glisser de sur ses genoux. Voyons, on le sent un petit peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le percevais.
Tout à fait. Bah, après, oui, non,
voilà, c'est comme ça que je le percevais. Et c'est là où j'ai vraiment voulu faire de la sculpture. Voilà.
Et là, c'est parti.
Ouais. Et là, c'est vraiment parti. Là, j'avais trouvé ma voie. Il fallait que je m'essaye aux différentes matériaux. Voilà.
Ça a commencé par le moulage, peut-être, non?
Ah non, le modelage.
Le modelage, oui.
Voilà, ça tombait pas loin d'un anniversaire.
Avec de l'argile.
Une amie qui est venue pour mon anniversaire, une collègue d'atelier, quoi, du petit atelier de Dominique Gamet. Elle est venue avec un painter et elle m'a dit, tiens, voilà, je t'ai apporté ça pour ton anniversaire. Et j'ai commencé à faire mon chien. C'est mon chien, c'était
comme ça.
Un gros matin de nappe, vous savez, une grosse peluche.
Je connais les matins de nappe, voilà. Je connais très bien.
Voilà.
Je connaissais une personne, il y a très longtemps, qui faisait l'élevage des matins de nappe.
Ah, mais c'est magnifique.
Et je suis allé quelquefois chez lui, donc lui, en fait, ses chiens n'étaient pas chez lui, il y avait une annexe à côté.
Oui.
Et je ne m'approchais pas. C'est quand on les voit...
Oh, ils font peur comme ça, mais c'est des peluches, mais vraiment.
C'est ce qu'il m'a dit, mais oui. Bon.
Ah oui, j'ai mon petit neveu qui avait 2-3 ans, là, qui faisait du cheval sur mon chien, quoi. Donc.
Ouais, pourquoi pas. C'est immense comme chien.
Oui, non, 60 kilos quand même, oui.
Oui, oui. Puis c'est grand.
Oui, c'est grand, c'est costaud, ça a une grande gueule. Dès que ça la bouge, il y en a qui partent dans tous les sens. Donc, non, c'est magnifique comme chien. Et donc, voilà comment ça a commencé. Ma toute première œuvre, ça a été mon chien.
Donc. Réussi.
Je pense.
Vous l'avez encore?
Oui, bien sûr.
Ah oui, la première œuvre, on la garde.
Ah ben oui.
Moi, c'est pareil,
ah ben
la première œuvre que j'ai faite en peinture, je l'ai gardée. Bon, après, voilà. C'est...
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le recul, quand on voit combien d'années derrière, maintenant je regarde...
On voit son évolution.
J'ai dit tout y est malgré tout, honnêtement.
Bah, tout à fait.
Tout y est.
Et, bah, c'est...
Et
tout
je me
à
demande
fait.
Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années. Alors que j'avais déjà tout dans les mains, en fait.
Ouais, mais il y a eu une progression, quand même.
Oui, sur le plan morphologique, sur le plan de,
bon,
des proportions, oui.
Travailler la terre.
Voilà, c'est ça. Après, connaître mieux la terre, la respecter parce qu'elle ne vous laisse pas faire ce que vous voulez. Elle a sa propre loi. Voilà.
Mais alors, si je comprends bien, donc en 93, il a fallu changer de vie aussi.
Complètement.
Il a fallu
bon,
avoir un atelier. Vous n'aviez pas d'atelier à l'époque.
Ah ben non, là c'était
donc,
dans la cuisine.
Il a fallu avoir un atelier.
Il a fallu...
Parce que la sculpture, ça prend de la place quand même.
Ah, et comment? Il a fallu avoir un atelier, et puis ensuite la cave d'un tel, ma cave, une autre cave, et puis voilà, on a commencé à squatter à droite à gauche chez les amis, voilà. Ouais. Et pour finir, quand j'ai fait mes sculptures de 2 mètres de haut, voilà, et bien là, il me fallait d'autres ateliers plus conséquents.
Au plafond.
Au plafond, exactement.
Au moins 3 mètres, parce qu'il faut tourner autour, après
exactement,
il faut être dessus.
Exactement. Voilà.
Mais ça s'est passé comment? Donc, tout de suite, le déclic de la sculpture, après, on cherche un atelier, ce qui n'est peut-être pas forcément évident au départ. De trouver le lieu qui correspond à ce qu'on cherche. Parce que vous saviez tout de suite ce qui allait correspondre à ce que vous cherchiez.
Où je l'ai fait.
C'est-à-dire?
Je l'ai fait. J'ai une maison dans le Perche. Et
ah, dans le Perche.
Et en fait, j'ai créé mon atelier.
Dans cette maison?
Dans cette maison. Donc, c'était en adjonction. J'ai fait façon loft, avec les grandes ouvertures au niveau de... la lumière avec le soleil qui tourne pour avoir à chaque fois les bonnes lumières et la hauteur de plafond, il y a 11 mètres en vide d'atelier.
Bon, donc, je disais 3 mètres, moi tout à l'heure,
voilà,
on est d'accord.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire. Voilà. On peut monter jusqu'à 10 mètres. Alors.
Voilà, non, mais je ne l'aurais pas fait jusqu'à aussi haut que ça.
Mais alors là,
si le besoin était, c'est possible. Voilà.
Mais la première sculpture s'est faite avec de la terre au départ.
Toujours.
Même encore maintenant?
Même encore maintenant.
Commencez toujours avec de la terre?
Oui.
Mais alors quand vous faites, par exemple, une sculpture, parce qu'on y viendra tout à l'heure, mais quand vous faites des grandes sculptures, il vous faut combien de kilos de terre là?
Pour Molière, par exemple, j'ai utilisé 260 kilos de terre.
Vous n'étiez pas comme Camille Claudel, aller chercher la terre avec la brouette?
Presque, mais on n'est plus à cette époque.
L'époque, elle l'a fait. Hein.
Oui, mais il y en a, j'ai encore des amis qui le font, parce que ça coûte moins cher et puis c'est plus drôle. On va dans le Perche, Il y a beaucoup d'argile, c'est effectivement. Donc c'est comme si on allait à la pêche. On va chercher de l'argile et puis on va mélanger, on va mettre du kaolin, on va mettre des additifs, voilà, pour qu'elle tienne la route, voilà. Et après, il faut la machine. C'est tout un système. Et bon, voilà, c'est encore du matériel, c'est encore de l'investissement. Et ben non. Donc il faut faire des choix. Donc je me suis contentée de faire une armature en métal de la hauteur voulue.
Ah, c'est vous qui faites l'armature?
Oui.
Donc avec de la soudure alors aussi.
Avec de la soudure.
Ah ouais, c'est quand même la sculpture, c'est...
Non, c'est... Il y a différents domaines qu'on touche, oui, effectivement.
Ah, il y a la soudure, il faut savoir souder.
J'aime pas trop, honnêtement. Hein. Je me fais aider. Hein. Mais j'ai appris, j'ai fait une école de...
Ah, il faut savoir faire la soudure.
Oui, j'ai fait une école de fonderie au lycée Languille à Eux. Donc j'ai appris tout ça, j'ai appris la soudure et tout. Mais je suis frileuse avec la soudure, il faut le dire ce qui est. Bah, donc j'en fais pas ma tâche.
Particulier, hein.
On est obligé d'en faire, hein, quoi qu'il en soit, on est obligé. Mm. Et puis voilà, et puis... Et après on y va, on colmate.
Donc on fait une armature.
On fait une armature.
D'abord on fait la terre.
Ah non. La terre, elle ne tient pas, sinon elle s'écroule.
Voilà, il faut faire l'armature et après la terre.
Faire d'abord l'armature.
Voilà, c'est ça.
Ensuite, après, il faut mettre des comment dire, qui vont prendre de l'espace pour avoir moins de terre à mettre et qu'on puisse la bouger après quand même, parce que déjà,
ça fait un poids.
260 kilos, c'est énorme. Donc,
260 kilos de terre, c'est déjà 260 kilos.
C'est 260 kilos. C'est
plus la ferraille. Voilà, plus
voilà. Donc alors la ferraille, et puis j'ai pris du polystyrène, j'ai pris de la filasse, et j'ai fait tout un maillotage de l'œuvre. Et ensuite, je suis partie avec de la terre. Et j'ai commencé avec combler par de la terre ensuite et de monter mon personnage.
Bon, ouais, c'est incroyable. Ça, c'était Molière, ça, non?
Molière... C'était Marcel Proust.
Ah, on en reviendra sur Marcel Proust.
Le maréchal Michel-Joseph Monory. Voilà. Il y a plusieurs sculptures comme ça. Petit loup, Marcel Proust enfant.
Très lié à Marcel Proust, hein. On en avait parlé.
Très. D'abord.
Moi, j'aime bien aussi.
D'abord parce que, vous savez, c'est bizarre la vie, comment elle est faite. Hein. Quand j'ai acheté ma maison, elle tombait en ruine. Elle tombait en ruine réellement.
Dans le Perche?
Oui, dans le Perche. Et donc j'ai acheté une ruine. Et en fait, j'ai fait appel à un artisan du coin qui habitait juste à côté. Et vous savez comment il s'appelait?
Proust?
Oui, et en plus?
Il était de la famille?
Marcel Proust, il s'appelait. C'est quand même drôle.
C'est quand même drôle. C'est curieux quand même.
Ah, oui,
et
oui,
c'était
oui.
De la famille éloignée, enfin,
j'en sais
une descendance
rien,
ou...
Pas sûr, peut-être, je ne sais pas trop. Ils ne savaient pas trop non plus, ils n'étaient pas spécialement érudits, donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne crois pas. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire de bêtises, je ne crois pas.
Alors comment se passe une journée type d'Iba? Parce qu'elle n'arrête pas en fait, Iba.
Bah, vous savez, Iba, elle est comme tous les artistes. Hein. Vous avez une œuvre, vous la quittez, mais elle ne vous quitte pas.
C'est vrai.
Voilà.
Et là, je veux dire que...
Donc,
on y pense...
Elle vous habite.
Ouais.
Et elle vous habite, et pour mieux y revenir, il faut savoir l'abandonner. Vous savez, c'est comme les femmes, hein, ou les hommes d'ailleurs. Hein. Voilà. pour avoir le plaisir d'y revenir, il faut les laisser un petit peu.
Le plus dur dans une œuvre d'art, oui. Quelle que soit l'œuvre, hein, bon, sculpteur, peintre, musicien ou écrivain, c'est de savoir s'arrêter.
Ah oui, bah, dans tout.
C'est un moment de dire stop. Et ça, c'est très difficile.
C'est valable dans tout. Vous parlez. À un moment donné, quand on dit tourne ta langue cette fois dans la bouche avant de parler,
ça, c'est...
les silences ont autant d'importance que la parole. Donc c'est pareil.
Est-ce qu'on peut dire que le génie d'Iba naît dans la réflexion et le silence?
Ah non, génie, c'est un peu beaucoup, je trouve, là vous me...
Ouais, mais
là,
quand on voit votre œuvre, c'est quand même génial, hein, c'est un génie.
Vous me flattez.
J'invite d'ailleurs les auditeurs à vraiment regarder votre œuvre, hein, parce que c'est vraiment une œuvre extraordinaire, quand même.
Franchement,
on sent que dans cette œuvre, qu'il y a une passion immodérée, quoi.
C'est exactement ça, mais c'est le côté immodéré.
C'est même plus une passion, quoi. C'est passé au-dessus, quoi.
Oui, c'est... C'est quelque chose de vital, je ne sais pas, il y a une question de...
Ouais, mais c'est... vous êtes imprégné dans la sculpture, dans le métier, quoi.
Complètement habité, je suis habité.
Alors, est-ce que vous aimez le mot passion?
Ah ben oui.
Oui.
Ah ben oui.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une passion?
Ah oui, c'est passionnel, forcément. Mmh. On se donne tellement.
Il n'y a plus que ça qui compte.
Pratiquement. Il n'y a plus que ça. Ça prend toute la place, honnêtement. Je ne vois pas. Il n'y a pas beaucoup de place autour, honnêtement.
Ouais, c'est...
Donc, si vous voulez postuler, ça ne marche pas.
Non, je ne postule pas. Non. Mais c'est une passion dévorante.
Oui, c'est dévorant. À certains moments, quand on réfléchit un petit peu à l'année, tant qu'on est le nez dans la création, parce que c'est le meilleur moment. Hein. Le meilleur moment, c'est la création. Et le meilleur moment, c'est la rencontre avec le public. Son œuvre... Et la rencontre avec l'amateur, le passionné, le collectionneur.
Alors, voilà. À ce sujet, est-ce qu'il y a encore beaucoup de passionnés et de collectionneurs actuellement? Dans le monde de l'art, hein, en général.
Je pense que...
Par rapport à il y a quelques années en arrière. Ça, c'est la grande question.
Je pense que c'est plus compliqué maintenant, aujourd'hui. Je crois qu'il y a une question... En ce moment, ils sont toujours là. Mais on a l'impression qu'il y a un attentisme, je sens bien. Il y a quand même des gens qui...
Il y a une inquiétude générale.
Générale, oui.
Une inquiétude de la vie en général.
Exactement.
Et donc l'art passe en dernier.
Exactement. Oui, ça reste...
C'est pas la priorité, quoi.
C'est pas la priorité. Et d'ailleurs, ce qui est malheureux, si vous voulez, ce dont je me rends compte, en discutant avec des collègues, de plus en plus, ils font des petites choses, pas cher. Et qui dit petite chose pas
cher.
Et même
cher, c'est difficile.
C'est, voilà. Ça dépend si c'est des petites choses, vraiment des bricoles, quoi, vous voyez. Bah, ça part comme des petits pains. Mais est-ce qu'on a envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça?
Voilà. Non, parce que vous n'avez pas envie de faire du commercial.
Non.
Vous avez envie de faire vraiment de la création, quoi.
Voilà.
Ce qui est complètement différent, en fait.
Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, on est dans une limite. Pour certains, de mercantile. Ce n'est plus tout à fait... Il y a une perte, à mon avis, à ce niveau-là. Et je pense que il faut quand même... c'est quelque chose, l'art, vous savez. Nous sommes des passeurs. Si on commence à se mettre au niveau mercantile et au niveau... il faut faire ce que le public demande, pas cher et à quel prix.
C'est de l'art décoratif maintenant.
Eh bien, ça devient de l'art décoratif.
Mais c'est plus de l'art.
Voilà, ce n'est plus de l'art, c'est ce que j'ai en train de dire.
C'est de l'artisanat.
Alors que, quand même, l'art, ça, c'est...
C'est la pièce unique, déjà, l'art.
Déjà, c'est la pièce unique. Elle est toujours unique, même si on la reproduit 10 ou 12 fois la même œuvre, parce qu'à chaque fois, il y a la patte de l'artiste qui vient et qui travaille dessus.
Et à chaque fois, ça sera différent.
Donc, à chaque fois, ça va être différent.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, chaque œuvre est unique. Et je pense que c'est ça qu'il faut toucher du doigt. On est là, on donne quelque chose, on a une vision du monde, on a une vision de la société, on a une vision des sentiments, on a une vision de l'être humain et bien d'autres choses. Et le but, c'est de les faire passer, de les faire toucher par autrui, que les autres le voient. Le ressentent, c'est pas le
alors,
voir,
qu'est-ce que le
ressentent.
Voilà, mais alors ils ressentent, et qu'est-ce que le public dit quand il touche une sculpture d'Iba?
Le public, tous, je sais pas, mais il y en a qui ont les larmes aux yeux.
Voilà.
Voilà, ouais. C'est, on regarde, et parce que, c'est pas parce que, mais je veux dire, ça ramène vers soi toujours. Pour comprendre quelque chose, on est obligé de le ramener un petit peu vers soi. Donc, et en le ramenant sur soi, on touche d'autres cordes sensibles. Et en fait, c'est ce lien-là qui s'établit ou non. On peut être complètement imperméable et dire « Ouais, allez, c'est classique, c'est ce qu'on veut. » Oui, tout est possible. Hein.
Moi, je vais vous faire une confidence. Quand on m'a demandé, là, j'ai dit que je faisais une émission sur IBA, j'avais dit sculptrice, mais je veux dire sculpteur. Hein. J'ai dit sculpteur. Donc j'ai montré quelques œuvres de vous. Hein. On m'a dit, c'est exceptionnel.
C'est
sérieux, hein, on me l'a dit la semaine dernière. C'est une personne qui m'a dit, c'est exceptionnel. C'est incroyable.
Merci.
Et c'est vrai. Hein, c'est
ça
vrai.
Ça me touche.
Merci. C'est une personne qui m'a dit, c'est vraiment un chapeau. Hein, Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Je dis encore aux auditeurs, regardez ce que fait IBA. De toute façon, on parlera après où on peut vous retrouver dans une exposition,
bien sûr,
parce que vous avez fait beaucoup d'expositions, beaucoup de fois invité d'honneur.
Ah oui, oui.
Je comprends, c'est normal.
Même cette année, là, alors oui, bien sûr, à Versailles.
Et dans chaque sculpture, je cherche la quintessence de la réalité.
Mais oui. Je cherche où est le vrai.
Alors, bon, là, je vois, il y a une photo de Marcel Proust devant vous. Bon, Marcel Proust, vous faites Marcel Proust. Et on a l'impression qu'il va vous parler, Marcel Proust.
Mais c'est exactement le but.
C'est le but, hein.
Le but, c'est que chacune de mes œuvres vous renvoie un regard, un questionnement. Et surtout,
qui suis-je?
Qui suis-je? Qui il est? Ouais. Vous voyez?
Ça, c'est la question.
Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent?
C'est la question que beaucoup d'humains se posent. Qui suis-je?
Son regard.
Ah oui. Oui, son regard.
Oui, son regard sur le monde, son regard sur...
Lui, il avait bien analysé le monde dans lequel il vivait, puisqu'il prenait des notes, il a pris des notes et des notes, il a voyagé, il a fait les grands salons parisiens de l'époque, et puis
oui,
après, il a fait La Recherche du Temps Perdu.
Il s'est isolé,
et puis il a écrit pendant longtemps La Recherche du Temps Perdu. Et bon, du côté de chez Swann, bon voilà, donc... C'est un auteur qui est beaucoup apprécié aux États-Unis.
Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai eu, quand nous l'avons inauguré, quand nous avons inauguré Tilou, c'est-à-dire Marcel Proust enfant, j'ai eu les présidents aux États-Unis, des responsables de l'association de Marcel Proust aux États-Unis, quoi.
Et moi, j'avais lu Marcel Proust quand j'étais beaucoup plus jeune, et j'ai passé des nuits entières à lire Marcel Proust. Hein. Ça m'avait, je sais pas, transporté. Ça vieillit pas, quoi, en fait.
C'est exactement ça.
C'est toujours dans le monde actuel, c'est toujours présent, quoi.
C'est un microchirurgien, moi, comme ça souvent je
schématise. Son père était médecin. Hein.
Oui, mais oui, tout à fait. Et j'ai dit, c'est un microchirurgien de la société.
Ah,
il s'est tellement disséqué.
Ah bah, il disséquait tout, hein.
Tout autour de lui. Il avait cette faculté-là.
Hein.
Et c'est pour ça, quand on me dit, ah, moi, j'arrive pas à lire Marcel Proust, j'ai dit, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire. Prenez un seul paragraphe, prenez la page, n'importe laquelle, et puis vous lisez, Ah. Lisez jusqu'au bout, laissez-vous transporter. Mmh. Et là, vous allez découvrir Marcel Proust. Faut pas chercher à tout avaler d'un seul coup. Ah, ça oui. ne s'avale pas.
Des non, années et puis ça sert à rien.
Des c'est... années de réflexion.
Oui, 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 c'est ça. Hein.
Ça ne s'avale pas comme ça, comme voilà.
Pourquoi vous avez fait Marcel Proust ? C'était une commande au départ ?
Oui, absolument. En fait, j'avais fait Diderot.
Ah, et Diderot.
Oui. Diderot, justement, hein, celui qui a fait la définition du beau et du.
Ah, oui.
Et de la
non, de l'émission,
l'encyclopédie, c'est ça qui est amusant, je trouve. Et
alors,
donc,
c'est quoi on en parlera après.
J'étais
c'est intéressant,
à Lisée-Combray, j'avais fait, oui, absolument. J'avais fait une exposition à Lisée-Combray et j'avais mis sur mon affiche Diderot, Denis Diderot. Et alors, au vernissage, monsieur le maire est venu. Et il a vu, il m'a dit, vous savez, je me déplace jamais, je viens jamais dans les expos. Mais quand j'ai vu votre Diderot, j'ai voulu vous voir. Et donc, il est venu à l'expo. Et puis voilà, on a sympathisé, voilà. Et puis il m'a dit, et si je vous demandais de faire, un Marcel Proust, ben, je lui ai dit, pourquoi pas, si vous me le commandez, je vous le fais. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti.
Comme ça que c'est venu.
C'est comme ça que c'est parti. Voilà.
Des alors, il y a eu en buste, en entier, assis.
Voilà, c'est parti comme ça. Et bon, à chaque fois, pour moi, c'est vraiment...
C'est un challenge à chaque fois ?
Ah oui. Ah oui, c'est un défi. Hein.
Est-ce qu'à chaque fois, qu'on commence une sculpture, est-ce que c'est toujours la première fois ?
Ah oui.
Ah, bonne question.
Oui. Pour moi, c'est toujours la première fois, en tout cas. La démarche, elle est la même. À savoir qu'il faut que je m'imprègne du personnage complètement. Il faut que je lise vraiment tout ce qui est autour. Et surtout que je lise ce que les gens pensent de lui. Donc, toutes les critiques, toutes les biographies par les uns et les autres, c'est ça qui m'intéresse le plus parce que ça me donne la réalité du personnage auquel je vais m'attaquer. Et puis voilà. Et puis généralement, je tapisse mes murs avec tout ce que je vois qui existe comme iconographie sur le personnage. Et je tapisse mes murs.
Il faut rentrer dans le personnage.
Je rentre dedans jusqu'à temps qu'il m'habite complètement.
C'est
incroyable. Quand il m'habite complètement, ça prend un certain nombre de mois. Je lis en même temps et tout, donc je suis complètement transportée.
Immergée dans le personnage.
Immergée, voilà. Après, j'enlève tout de sur les murs et j'attaque. Et je vais directement dessus. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
Oui, on est prêt à l'action.
Prêt à l'action, exactement. Il faut que je sente le déclic pour y aller.
Alors, on parlait tout à l'heure du beau. Alors, la question, c'est quoi la définition du beau ? Alors là, c'est quoi, en fait ? C'est quoi la beauté ?
Qu'est-ce qui est beau ?
Qu'est-ce qui est beau ?
Alors,
est-ce qu'on peut ramener le beau uniquement au physique ? Moi, je pense pas.
Non.
Non, je pense pas. Non, mais non, bon, non. Dans la société actuelle, c'est ce qu'on nous montre. Hein.
Oui, les canons de la beauté, et encore qu'ils changent, hein, parce que vous n'avez qu'à regarder. Avant, on voyait des femmes filiformes, on voyait des hommes filiformes. Et maintenant, on voit...
Ça, c'était dans les années 50, ça.
Ben voilà, c'est ce que je dis, regardez l'évolution.
La nourriture n'était pas la même.
Oui, il y avait moins de coca et de McDo.
Ah ouais.
Mais ah. Bon. Pas que. Il y a quand même les canons de la beauté. On commence à accepter qu'il y ait des femmes qui soient très rondes et qui aient droit à une sexualité, une sensualité. Et en fait, c'est ce que je... En fait, dans mon travail, c'est ce que j'ai toujours voulu garder en moi, d'être capable de voir ce qui est beau, toute la sensualité, toute la...
Mais la beauté intérieure.
Voilà.
Et parce qu'en fait, quand vous sculptez, vous faites ressortir la beauté intérieure.
Je regarde, c'est ça. Je ne vais pas faire les traits. Je ne vais pas faire forcément les traits. Qu'il y a des portraitistes qui vous font un portrait complètement synthétisé et parfait.
Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie.
Parfait, mais sans vie.
Il n'y a pas de vie.
Et voilà. Et la différence, c'est que Je voudrais, moi, que mon modèle se lève et puis qu'il commence à discuter avec moi. Et c'est le, voilà, c'est ça. Et quand j'arrive à parler avec lui comme ça, si vous voulez, eh ben je me dis, ça y est, c'est gagné. Vous voyez? Et donc, la beauté, en fait, la beauté, elle vient pas qu'il ait les yeux bleus, qu'il ait les yeux en amande, les pommettes, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est cette ride-là qu'il a eue, là. Il a reçu un fer à repasser quand il était petit ici, il ne comprend pas pourquoi. Et ouais, ça lui a fait une ride ici. Voilà. Et puis alors, ben, il a des dents pas très très belles. Alors, il a un sourire qui est un peu différent pour cacher ses dents. Vous voyez? Et voilà. Et en réalité, vous avez tout ce qui est intérieur, la beauté de la personne, qui ressort dans son comportement, dans son sourire. Et quelquefois, je vous dis, c'est un mix entre ce qu'il est à l'intérieur et les défauts qu'il a à l'extérieur, entre guillemets défauts, qui sont en fait des qualités.
On a tous des défauts, hein.
C'est pas des défauts.
C'est pas des défauts, peut-être. C'est peut-être des qualités cachées.
Voilà. Mais on a l'âge, les commissures de lèvres, les petites rides, les, voilà, tout ça, ça joue. Et c'est, ça fait partie de la beauté.
Quand, ouais, quand on est avec une personne, on discute avec elle, on peut tout de suite parfois ressentir s'il y a du feeling ou pas.
L'empathie.
Est-ce que ça fait partie de la beauté, ça aussi?
L'empathie.
Est-ce que quand vous sculptez, est-ce que vous le ressentez, ça?
Mais bien sûr.
Est-ce que vous rentrez dans le personnage? Parce que moi, j'ai une réflexion. C'est quand j'ai commencé la peinture il y a très très longtemps. J'ai commencé, bah, un peu comme beaucoup de peintres, vous l'avez fait aussi certainement, j'ai commencé par faire des copies de tableaux.
Oui, bien sûr.
Et en fait, j'ai pris un livre, au hasard, hein, j'avais une encyclopédie, j'ai pris un livre au hasard, et franchement, hein, je suis tombé sur un tableau de Van Gogh.
Mm-hmm.
Je ne connaissais pas plus Van Gogh que ça, quoi. J'ai découvert après son œuvre, qui était fabuleuse, et quand on sait comment elle a été connue, son œuvre,
oui,
alors ça, c'est encore plus fabuleux.
Oui.
Et je suis tombé, alors, pas sur les iris, pas sur un bouquet de fleurs, tout ça, je suis tombé sur les prisonniers de Van Gogh.
Oui.
Je
ne
sais pas si vous connaissez le tableau. Les prisonniers de Van Gogh.
Oui.
Et j'ai fait ce tableau. Je l'ai fait deux fois. Et j'en ai encore une copie à la maison. J'avais trouvé ce tableau fabuleux. Et quand il y a eu une exposition chez Vuitton...
Là-bas, dans le bois de Boulogne.
Vers Neuilly, là-haut, il y avait une exposition d'un collectionneur russe, je crois. Voilà. Et il y avait ce tableau de Van Gogh, des prisonniers, l'original. Et quand on voit le tableau, il est tout en bleu, pratiquement. Hein. Un personnage qui est en marron, je crois. Bleu foncé, comme ça. Et ils ont mis ça dans une pièce noire avec un éclairage dessus. On avait vraiment l'impression qu'on était avec des prisonniers. Hein.
Oui,
incroyable.
Oui,
hein.
Oui.
C'était, Et donc, j'ai commencé comme ça. Et quand j'ai commencé à faire des copies de tableaux, je rentrais dans le personnage.
Mais c'est ça.
Je rentrais dans la pensée du peintre.
C'est ça.
Je trouvais ça assez fabuleux.
C'est
quand
ça.
Même.
C'est exactement
ça. Et donc,
ça.
Vous, c'est pareil. Alors.
Les peintres, sculpteurs, c'est la même démarche. Me semble.
Bon, la sculpture, ça demande quand même plus... Bon, il y a déjà la 3D, hein. Bon, en peinture, on l'a un peu, mais bon, en sculpture, plus quand même. Hein.
Oui, mais on trouve des subterfuges en peinture aussi, hein.
Oui,
pour
oui.
arriver à la profondeur.
Oui,
parce
oui.
Parce qu'en fait, c'est ça, récupérer la profondeur.
Ouais.
Récupérer la profondeur d'un être. Parce que nous sommes quoi? L'addition de strates générationnelles.
Ouais.
C'est ce qui fait, c'est ça la beauté, c'est de cumuler cet acquis qu'on avait. On n'avait rien au début, entre guillemets, rien, mais on avait tous les strates de nos générations précédentes, avant même notre naissance. Et quand on vient, après tout ça se bonifie, se transforme, et c'est ça qui fait qu'on est bon aussi.
Hein. Et là, je vois, vous avez un livre de François Cheng.
Oui.
Vous vouliez lire un petit passage sur la... C'est un livre sur la beauté, en fait.
Oui, en fait, on vient de m'offrir ça et je n'ai pas trop eu le temps. Désolée de le lire avant et à ce moment-là, j'en pense...
François Cheng, c'est bon.
J'aurais pu dire d'autres choses. Mais je relève rapidement que si chacun est unique, c'est dans la mesure où tous les autres le sont aussi, si on est unique.
Bah, tout à fait, bien sûr.
N'est-ce pas ? Si j'étais le seul à être unique, et si tous les autres étaient identiques, je ne serais qu'un échantillon bizarre. Je trouve ça pas mal.
C'est ça, oui.
Je trouve ça pas mal.
Ouais. Est-ce que et la société actuelle, on veut que tout le monde se ressemble ? On veut que
oui,
tout le monde soit identique.
C'est ça le problème.
Le problème de la société actuelle, c'est ça. Voilà, ouais. C'est qu'on veut, on veut enlever l'identité des gens.
C'est ça. La créolisation, enlever l'identité.
On veut enlever tout le monde soit lisse, parfaitement
voilà,
lisse.
Voilà. On commence déjà par les villes, que vous alliez dans les centres-villes. Maintenant, quels que soient les centres-villes en province, vous allez voir. Je ne vais pas citer les marques. Mais les magasins enseignes qui se suivent les uns derrière les autres, vous avez les mêmes vêtements et vous allez à l'autre bout du monde et vous avez les mêmes enseignes avec les mêmes vêtements.
J'ai eu l'occasion de le faire.
Voilà. Donc, moi, ça me gêne beaucoup, vous voyez. Donc, ouais. Ça me gêne beaucoup.
On essaye d'enlever la personnalité de l'humain.
Complètement.
Et donc, dans l'art, on ah ben, je ne sais pas pourquoi.
Ben justement, intéressant. Par rapport à la sculpture,
ben voilà,
et par rapport à mon travail, enfin, en tout cas, ce que je défends dans ce que je fais, si vous voulez, c'est de surtout ne pas uniformiser.
Voilà.
Surtout ne pas uniformiser.
Et dans l'art, on a tendance aussi à uniformiser. Hein.
Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. On lisse. Pourquoi ? Les trois quarts du temps, souvent, on lisse, on fait brillant, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien.
On fait un petit chien à 1000 exemplaires,
voilà,
tout brillant, toutes les couleurs.
Voilà, ben ça,
parce que j'ai déjà vu ça. Hein.
Et ça, c'est encore une autre histoire, parce que ça, c'est un...
C'est plus de l'art, hein, ça, c'est, d'accord.
C'est, alors, c'est du marketing, c'est pas pareil.
Le marketing, ça n'a rien à voir.
Et c'est arrivé, comme avec Andy Warhol, par une erreur informatique. Vous voyez, dans de la création, dans de la création informatique. Bon, écoutez, si ça fonctionne, tant mieux pour lui, hein, voilà, c'est tout.
Ouais, mais bon, ça casse un peu le...
Mais voilà, c'est...
Un peu le rêve, en
alors,
fait. Il n'y a plus de rêve, en fait.
C'est ça.
C'est important, le rêve.
Ben, bien sûr que c'est important. Si on peut se transporter, bien sûr.
Bien sûr.
Le cerveau... Si vous lui mettez là, vous le sclérosez, vous le mettez dans un bocal.
Il faut avoir le cerveau sans arrêt en ébullition.
C'est ça.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre journal des Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, je reçois Iba, thème de l'émission. Iba, sculpteur, l'expressivité de la beauté vraie de la vie. Et est-ce que, donc, tout à l'heure, on parlait, vous avez oublié de vivre.
Oui.
On va passer un extrait de chanson, J'ai oublié de vivre. D'accord.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc, aujourd'hui, je reçois Iba, sculpteur, l'expressivité de la beauté vraie de la vie. Donc, je vous passe un message de la galerie Violet. Je vous en ai déjà parlé à la dernière émission. Donc, la galerie Violet, donc c'est Bérangère Violet qui a repris la galerie d'art de son père. Son père était un photographe, journaliste et photographe de presse dans les années 70, qui a beaucoup voyagé avec ses appareils photographiques, qui était un grand photographe. Et donc Bérangère a repris sa galerie. Donc je vous présente un peu Bérangère. Après avoir travaillé dans la communication culturelle, je me suis tourné vers l'organisation d'événements, puis la bistronomie. Donc la bistronomie, c'est la restauration dans les cafés, voilà, une cuisine un peu particulière. Pas rapide, mais bon, c'est la cuisine, quoi. Bon, avant de partir vivre 10 ans aux Antilles, en 2022, la vie m'a ramené en France, hexagonale, avec l'envie de valoriser le fond photographique de mon père, Jacques Violet, journaliste et photoreporter dans les années 70, ce que je vous disais. Donc voilà. Et donc son père est décédé, donc elle a repris la galerie de son père, ce qu'elle a très bien fait parce qu'il a une collection, c'est un très bon photographe, hein. Il a une collection de photos assez exceptionnelle. Et donc une formation, alors elle a fait une formation d'encadrement pour valoriser encore plus les photos de son père. Un encadrement, ça valorise encore plus l'œuvre, hein. Mais les œuvres sont très très haute qualité. Et donc il va y avoir donc les 100 ans de des 24 heures du Mans qui étaient en 2023 et les 75 ans de Porsche Motorsport, et cette année c'est la 94e édition. Et la galerie Jacques Violet, c'est Bérangère Violet, fait une exposition du 1er juin au 15 août 2026, 36 rue Jean Giraudoux à Pellevoisin. Et donc je vous communique, donc Pellevoisin, c'est une commune qui se trouve dans l'Indre, une très belle commune. Je vous invite à y aller parce que ça vaut le détour.
Oui,
et la galerie 36 rue Jean Giraudoux à Pellevoisin, le téléphone 06 84 31 53 35, 06 84 31 53 35, Bérangère, alors le mail c'est Bérangère. Point, galerie violet, tout attaché, @gmail.com. Bérangère, point, galerie violet, tout attaché, @gmail.com. Voilà, je vous invite donc à aller voir cette très belle exposition qui aura lieu du 1er juin au 15 août à la galerie violet à Pellevoisin, 36 rue Jean Giraudoux. C'est donc Pellevoisin, c'est 36-180, le code postal. Voilà, je reviens... je reviens sur IBA, Deriva, pardon. Et donc, beaucoup d'expositions. Hein, donc, les expositions ont été très rapides, en fait. Elles sont venues très rapidement, les expositions.
Oui, tout de suite. Le premier dossier que j'ai proposé, c'était au Grand Palais.
C'était en quelle année ?
En 2012.
Ouais. Donc, il y a eu...
Oui, non, c'est ça.
Vous avez commencé en 93, là, commencé le
94,
dessin.
Oui, mais je n'ai pas exposé, là. J'ai travaillé...
Voilà. Là, vous avez travaillé.
Non, j'ai travaillé, j'ai appris les techniques. Voilà, toute cette période-là,
oui,
ça a été
c'est un travail de longue haleine.
Jusqu'à 2011, les patines, enfin, maîtriser complètement le métier.
Ah, donc, dix ans après, c'était la première expo.
Voilà, 2012, donc huit ans après, j'envoie mon dossier au Grand Palais et aux artistes français et je suis acceptée. Mais moi, je ne touchais pas du doigt ce que c'était.
Quelles ont été les premières impressions de cette exposition ?
Écoutez, je me sentais noyée parce que c'est grand, c'était tellement immense. Je ne pensais pas... Presque. Donc, j'étais un petit peu, noyée, voilà. Mais bon, je présentais quatre œuvres qui avaient été sélectionnées. Et en fait, j'ai été très fière, quoi. Après, j'ai été contactée par des galeries, voilà. Et c'était mon premier pas. Et après, bon, ça s'est suivi, différentes expos.
Et après, c'était parti, quoi.
Après, c'était parti.
Alors après, donc, les premières années, c'était... Je dirais l'apprentissage pour bien maîtriser son art. Et après, une fois que les expositions viennent, mais ce qu'il y a, c'est que les expositions, il faut se déplacer, ça prend du temps.
Voilà.
Les pièces, la sculpture, c'est peut-être un peu plus compliqué que la peinture encore parce que c'est plus lourd.
C'est plus lourd, faut travailler. Les emballages, c'est
un peu spécial. Et puis, on se déplace aux expositions. Quand on est aux expositions, on est sur l'exposition, on ne travaille pas.
Exactement.
Et donc, c'est comme une fois un musicien qui m'a fait la réflexion, je donne des cours de musique, mais je ne joue plus, quoi.
C'est exactement ça, des choix à faire. Ou vous donnez des cours, ou vous êtes artiste, il faut choisir.
Ouais, mais vous faites des expositions, parce qu'après, les expositions se sont enchaînées rapidement.
Oui, après, je suis partie. En fait, quand j'ai fait les dernières patines, c'était à Versailles, elle m'a dit... C'est bon, là, un petit coup de pied au cul et hop, excusez-moi l'expression. Allez, on y va maintenant. Et c'est comme ça que c'est parti sur les premiers dossiers. Et après, ça s'est enchaîné. Après, on m'a demandé, et ça a été bien. C'était une belle vie. Mais j'ai oublié de vivre.
Et alors, pourquoi oublier de vivre ? Vous n'avez pas oublié de vivre parce que vous avez fait de votre vie ce que vous vouliez. Alors, qu'est-ce qui manque ? On ne va pas le dire, mais bon, il doit manquer quelque chose, peut-être, non ?
Non, la vie est courte, en fait.
Wow,
la vie est très
c'est
courte.
Même plus que court. Hein.
Exactement. Après...
Quand on est jeune, on a l'impression que c'est très long, mais
oui,
bon...
c'est exactement ça. Et là, quand on vient et qu'on fait
quand on prend de l'âge, on se retourne.
Et voilà.
On dit, qu'est-ce qui m'est arrivé ?
Et puis quand on vous dit, un tel est parti, tiens, on était invité d'honneur ensemble, il est parti,
c'est la vie, hein.
Et donc, j'ai oublié de vivre, oui, alors on se dit, attention, qu'est-ce que j'ai oublié justement de vivre ?
Qu'est-ce que j'ai oublié vraiment oublié ? Vous avez fait quand même, la sculpture,
non,
ça a été quand même...
Mais on peut des fois, si vous voulez, on est tellement absorbé, tellement absorbé par son art que on oublie des choses essentielles et simples et qui sont des grands bonheurs dans la vie. Voilà, passer un moment en famille, hors du temps, des neveux, des nièces, de la famille.
Et ça, vous aviez plus le temps de le faire ?
J'étais plus de toutes les réceptions, quoi. J'étais plus de toutes les réjouissance, quoi, si je puis dire. Parce que un coup, j'étais là-haut, un coup, j'étais à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde. On n'est pas toujours là, quoi. On n'est pas toujours présent.
Et après l'exposition, retour à l'atelier, des commandes, je suppose,
c'est
peut-être.
C'est ça, voilà. Et puis remettre en route des nouveautés, donc pour les créations, travailler avec la fonderie pour les fontes. Et
alors
tout
oui,
ça.
C'est de la fonte que
du bronze, c'est du bronze.
Pardon,
c'est
de la fonte, du bronze.
Du bronze, oui, du bronze. Et donc il y a tout un travail de l'artiste. En plus, moi je passais beaucoup de temps parce que je faisais mes moules, je faisais tout, quoi, tout toute seule, quoi.
Mais après, vous avez fait du bronze, vous en avez fait vous-même?
Oui.
C'est tout un art de faire ça.
Ah, c'est tout un art, et puis c'est une question de sécurité.
Et puis alors la technique, c'est quoi?
On ne fait pas n'importe comment, pardon.
La technique du bronze, c'est quoi alors en fait?
Oh là là, c'est très long à vous expliquer. Hein.
Ouais, c'est très long.
Ouais, je ne sais pas si on a assez d'une antenne.
Pour en faire une émission, hein. Ça c'est, oui, oui. C'est pas un problème.
Alors,
hein.
Si vous voulez la technique là-dessus, oui, il y en a, mais...
Mais grosso modo, quoi, c'est...
En grosso modo, vous partez de la terre, après quand vous avez fait votre terre, vous faites un moule en silicone.
Ouais.
D'accord. Et ensuite, le moule en silicone, il tient pas tout seul. Il faut faire au fur et à mesure un moule en plâtre qui tient le silicone. D'accord.
Ah, d'accord.
Et ensuite, tout ça, on fait ça en plusieurs parties. Ensuite, on rassemble les parties. Et après, on doit pouvoir rouvrir sans problème et enlever la terre qui existe. C'était l'original, la matrice. Et ensuite, on fait la cire.
Mais en faisant toutes ces étapes-là, est-ce que la sculpture originelle ne se modifie pas un peu?
C'est ce que je suis en train de vous dire. Elle disparaît.
Ah oui, elle disparaît.
C'est l'empreinte exacte au...
L'empreinte reste quand même.
L'empreinte de l'artiste, il y a mes doigts dedans, vous avez mon empreinte digitale qui est dedans, hein, quoi. Mais pour dire que c'est proche avec le moulage au silicone. Mais... après, l'original qui est à l'intérieur en terre, les trois quarts du temps, il disparaît. Ou il est abîmé, et voilà. Et de toute façon, une terre, pour qu'elle dure, il faut qu'elle soit cuite. Donc, c'est tout un process. Alors après, il y a des choix optionnels à faire. Est-ce qu'on cuit avant et ensuite on moule? Et là, c'est encore d'autres démarches. Voilà.
D'accord,
et donc la cire, après la cire, il faut... y a tout le processus pour faire le bronze. Et une fois qu'on a fait la cire, il faut faire toute une sieste.
Et la retouche des œuvres, qui est-ce qui l'a fait? La retouche des œuvres?
Ben, c'est moi.
C'est vous,
tout,
en fait.
Oui, bien sûr. C'est l'artiste. Non,
mais quand le bronze est fini, il y a des retouches à faire encore? Il peut y avoir
oui,
des retouches?
Ah, mais oui.
Et là, on fait comment?
Quand le
Parce
bronze
que c'est,
est fait...
c'est dur,
normalement,
quoi.
C'est le fondeur ben, c'est qui le fait. Non, si. Le bronze, c'est solide, c'est costaud.
Oui, c'est costaud.
Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, quand vous avez fait votre bronze, la cire, on fait tout un système d'alimentation comme un moteur de voiture. Il faut alimenter en carburant, alimenter en gaz, alimenter en électricité, ta. Et puis, il y a tout ce qui s'échappe de la voiture.
Ouais.
Et les pots d'échappement, Eh bien, c'est la même chose pour les sculptures, pour la cire. Ce qui fait que vous allez avoir tous des tuyaux de partout sur la sculpture, en cire, et tout ça va être trempé dans un bain de plâtre réfractaire, intérieur et extérieur, c'est-à-dire on va mettre du plâtre réfractaire à l'intérieur de la sculpture.
C'est un boulot incroyable.
À l'extérieur, on met ça dans un cylindre et on met également du plâtre réfractaire, et tout ça, on le met à l'étuvage. Et à l'étuvage, pendant un certain temps, ça va cuire le plâtre réfractaire, qui va devenir
naturellement, en fait.
Aussi dur que la céramique.
Ah ouais, quand
Et
même.
Quand c'est aussi dur que la céramique, à ce moment-là, la cire a complètement disparu. Et donc, il nous reste juste l'épaisseur du bronze. Vous savez, le plâtre réfractaire intérieur, le plâtre réfractaire extérieur, comme ça, vous voyez. Après, il ne me reste plus que l'œuvre en elle-même. Cette partie-là. Et là, on peut couler le bronze en fusion. Et à ce moment-là, tout sort, y compris les tuyaux, les évents, les tout ça. Et après, il faudra découper tout ça, ébarber donc, la pièce en bronze, et ensuite la ciseler. Et quand elle a été entièrement ciselée et que ça devient brillant comme un bijou, vous voyez, à ce moment-là, on peut la patiner avec par oxydation
fou,
au chalumeau. Pour ça, je vous dis, c'est un gros travail.
C'est incroyable. Mais le bronze, il est fait donc
Chez le fondeur.
Chez le fondeur. Mais après, ça fait quel poids?
Ça dépend de l'œuvre. Et ça dépend de l'épaisseur.
Si c'est une œuvre de 2 mètres, comme vous avez fait, la Molière ou...
Dans les 400.
400 kilos? Ah, mais comment on le transporte? Il faut un...
Un spécialiste.
Un spécialiste, hein?
Non, ça existe, hein.
400 kilos, c'est énorme, hein, quand même.
Bah oui, dans ces aulnes-là.
Ça fait un poids...
Entre 300 et 400, voilà. 450. Ça dépend de l'épaisseur du bronze.
Quand même, ça fait...
Oui, non, mais ça fait du bruit, quand même, oui. Ouais.
Alors, vous avez fait quoi, alors? Molière, Proust, d'autres encore, le général...
Michel-Joseph Monory, quand même, le maréchal à titre posthume. Grâce à lui, ben, il a gagné la bataille de l'Ourcq avec le maréchal Foch. C'est grâce au maréchal Michel-Joseph Monory que Paris a pu être sauvé.
Ça, c'était pendant la Commune.
Les taxis de la Marne, les taxis de la Marne.
Ah, les taxis de la Marne. Donc ça, c'était pendant la guerre de 14-18, en fait.
Voilà.
D'accord.
Et donc, voilà, il a été quelqu'un de hors pair à cette époque-là.
Donc là, c'est des commandes d'État.
Il était à la retraite, ils sont allés le chercher. Parce qu'il n'avait personne pour le commandement, pour protéger Paris. C'était à l'entrée de Paris. Et donc, il avait fait son bureau, son état-major, dans la mairie du Raincy, justement.
D'accord.
Donc, on peut aller visiter son état-major dans la mairie du Raincy. Voilà.
D'accord.
Et donc, là, dans le parc...
Et vous avez fait une sculpture de ce...
Donc, il y a le maréchal Michel-Joseph Monory, qui est dans le parc derrière la mairie, qui s'appelle le parc... Michel-Joseph Monory, et vous en avez un autre qui est à Maintenon. La ville de Maintenon, c'est là où il est né.
D'accord, d'accord.
Et donc, voilà.
Et donc, c'est vous qui avez fait les sculptures, là?
Oui.
Les deux?
Oh, les deux, oui, oui, tout à fait.
Et... De tailles différentes?
Non, non, les mêmes. Les mêmes?
Les mêmes,
oui. Environ 2 mètres aussi, pareil.
Pareil. Ouais, c'est...
Voilà,
c'est pas mal,
et
quand même.
Puis après, ben, nous avons... À Marcel Proust, nous avons...
Donc Marcel Proust, il y en a eu beaucoup. Hein.
Les trois, il y en a eu beaucoup, voilà, c'est ça. Et pour finir, là, depuis 2023, j'ai travaillé sur Molière.
Ah,
toujours
Molière.
Pour la ville de Raincy, à la fois le buste et à la fois la statue. Et j'ai pris un atelier dans le 19e, et pour avoir tout l'espace qu'il me fallait... et d'être proche quand même de tous les matériaux dont je pouvais avoir besoin. Et donc, j'ai travaillé comme une malade depuis 2000.
Alors, on parle de la sculpture, mais les outils?
Il faut du matériel. Ah ben
alors,
oui,
c'est quoi les outils du sculpteur? Oh là là,
oh là, là.
Il y en a beaucoup, hein?
Mais oui, il y en a beaucoup, 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 beaucoup.
Parce que sans les outils, on ne fait rien, quoi. Enfin, non, on fait pas...
Les outils mécaniques.
Il y a déjà la main. Au départ.
On a nos deux mains, on a un couteau, et on peut après avoir tout ce qu'on veut comme outil. Je peux y aller au marteau, dans la terre, on peut travailler avec ce qui nous passe.
Vous pouvez faire des outils vous-même.
On fait ces outils. Oui, il y a des outils qu'on ne peut que faire soi-même.
Ah ouais.
Parce qu'on ne les trouve plus on les trouve pas. Puis même avant, les sculpteurs faisaient leurs propres outils.
Ouais, hein. Tout à fait, bien sûr.
Donc,
même les peintres. Hein.
Ben oui.
Quand on voit Hartung, le peintre
oui.
Abstrait, mais qui était figuratif avant, ben il faisait ses outils lui-même. Hein.
Mais bien sûr. Son papier, ses pinceaux, oui, bien sûr.
Ouais, bien sûr. Hein.
Bien sûr.
Dali aussi,
après,
il a fait...
ses couleurs, bien sûr, aussi.
Il faisait de la sculpture, Dali aussi, je crois.
Hein. Oui, bien, Dali, oui. Mmh. Mmh. Mmh.
Donc, ces outils sont... sont bien rangés à la fin d'une œuvre ou ils sont mis, on ne les range pas, demain je m'en servirai.
Je suis toujours en train de ranger, mais bon, c'est... De toute façon...
Vous toujours bien les nettoyer?
Oui, toujours. Alors là, je fais très attention, oui, bien sûr, je nettoie au fur et à mesure. Sinon, c'est perdu après. Hein. Vous laissez les outils sales, c'est pas bon. Pas bon.
Ouais,
si vous faites une résine, tout est mort tout de suite. Vous pouvez mettre à la poubelle.
Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir dans votre atelier?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous faites des portes ouvertes?
Non. Non. Je ne fais pas de portes ouvertes.
Ah,
je reçois sur rendez-vous, mais pas sur portes
ouvertes. Vous recevez sur rendez-vous?
Oui.
Il faudra nous le dire tout à l'heure si vous voulez recevoir des.
Oui, il y a des.
Ouais.
Bon, de toute façon, j'ai une adresse mail, on pourra la donner.
Oui.
Et j'ai un téléphone également. Donc,
oui, vous pouvez le donner. Hein.
Voilà.
Ouais.
Et surtout, Iba, si vous me cherchez, c'est avec un Y.
Y-B-A-H. D'accord.
Voilà. C'est la quintessence de ma personnalité.
J'ai compris comme ça.
Voilà. Mon prénom et mon nom, voilà, c'est ça.
Ah, Iba.
Voilà.
Mmh. Ouais, c'est intéressant. Hein, c'est...
Iba.fr, vous ne vous trompez pas, c'est pour le site. Et...
Comment ?
Iba.fr, pour mon site internet.
Iba.fr,
c'est voilà. Ça ? Voilà. Oui, ou alors Iba Sculpteur, Iba Trait d'Union Sculpteur. Le trait d'union du 6.
Voilà, le trait du 6. Ouais.
.com.
.com, d'accord. Alors, Iba, Iba, le point .fr.
I, oui.
Y-B-A-H, oui. Point .fr.
Voilà.
Et Iba...
Sculpteur Y.
Tiré du 6, sculpteur.
Avec, voilà, en Iba et sculpteur, tiré du 6, .com.
.com, voilà.
Sculpteur sans E. Hein,
et vous donnez un numéro de téléphone ou...
On peut. 06 07 40 81 56.
Allez dire.
06 07 40 81 56.
Voilà.
Donc adresse c'est... mail iba sculpteur at gmail.com.
D'accord.
Voilà.
Ah, oui.
Vous avez tout là.
Vous avez fait combien d'œuvres en tout ? Vous avez compté ?
Jamais. J'ai jamais compté.
Ah, comme moi, je n'ai pas compté.
On ne peut pas compter. Si vous vous mettez non. à compter, vous faites le calcul de quoi
Ouais, c'est ça.
On est obligé de compter quand on fait des bronzes. Voilà, c'est tout. Après, on s'amuse sur la terre, on fait des œuvres, on les oublie, on ne les montre même jamais. Parce qu'on les fait comme ça, pour soi, pour le plaisir de modeler.
Vous faites tous. Alors, donc vous voyez, vous n'avez pas oublié de vivre, en fait.
C'est mais votre pour vie. Mon art, c'est ma vie.
C'est votre vie.
Mais oui, c'est
donc,
ma vie.
Pourquoi...
Oui, mais à une époque, je voyageais énormément pour le plaisir. Est-ce que je sais me mettre sur une plage ou...
Je ne sais pas. Ça va être compliqué.
C'est fini.
Ça va être compliqué. J'ai l'impression que ça va être compliqué.
Mais voilà. Aller faire du plongeon dans tel endroit. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, mais bon,
aller
après,
sous les cascades de ceci, de cela.
C'est magnifique quand et même oui, voilà. de se mais dire un jour, chance, bah, j'ai changé complètement de vie. Quoi.
Mais on a, c'est un don du ciel que d'avoir une passion.
Bah, bien sûr.
On vit de notre art. Mmh. C'est qui peut dire ça ? De son travail.
Et la famille, comment elle suit là, derrière la famille
elle est obligée de nous suivre, c'est bien
comment
ça.
Comment ils perçoivent ça, les proches
ben, ils savent qu'ils sont impuissants à côté de la force, l'emprise de l'art sur moi. Voilà.
Et est-ce que vous avez pu leur transmettre ?
Je pense que j'ai ils avaient des gènes déjà.
Est-ce qu'il y en a dans la famille qui se sont mis à la sculpture ou à la peinture ou...
Ah non, mais oui, à la mosaïque, à la peinture, oui, à la musique. Non, il y a, dans l'art, nous aimons tout. Tous les petits neveux et nièces font du modelage, ils veulent faire comme moi. Et donc, je peux tout transmettre à mes petites nièces maintenant. Donc, elles veulent faire du mode de la sculpture comme Tata.
Vous faites de la taille directe
sur... Aussi, oui.
Ça, c'est...
Oui, je fais de la taille directe, oui.
Ouais.
C'est encore autre chose.
Moi, j'ai eu l'occasion de voir dans le sud, là où ils font les parfums. Là,
oui, Vence, Saint-Paul-de-Vence.
Non, là où...
Les Baux-de-Provence.
Non, la ville où ils font les parfums, là, bon...
Oui. Grasse.
Voilà, Grasse, pardon. Et j'ai vu, il y a quelques années en arrière, un concours de sculpture sur bois.
Oui.
Des bois monumentaux, enfin des troncs d'arbres, vraiment,
oui,
vraiment très gros. Quoi.
Oui, mais ils y vont à la tronçonneuse.
Et ils sculptaient à la tronçonneuse.
Ah, mais bien sûr, ça, bien
ah,
sûr. Mais,
alors, casque, lunettes,
oui.
Tout, quoi.
Ah oui.
Et alors, il y avait une poussière. C'était un concours, ils étaient une vingtaine, là, à un côté de l'autre.
Oui. Un symposium. Oui, ça, j'aime pas les symposiums, personnellement.
Voilà. Ça fait du bruit, hein,
je peux vous dire. Oui, ça fait du bruit. Mais bon, moi, je suis plus dans la taille directe, mais dans la pierre.
Dans la pierre.
Ça, j'aime. Parce que c'est le côté, vous savez bien, Michel-Ange. Je reviens et on rentre dans la matière, pareil, comme dans le modelage, si vous voulez.
Vous sculptez sur le marbre aussi?
Non, j'ai fait des petites choses, mais comme ça, pour m'essayer. Mais là encore, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Et il faut y aller maintenant. Les trois quarts, ils vont avec les outils. Ils ne le font pas comme le faisait Michel-Ange, uniquement avec la gouge. Hein, ouais, la gouge et les râpes. Oh, non.
C'est incroyable.
Donc là, maintenant, encore que les... Ils ont fait un beau travail sur Notre-Dame, hein, les tailleurs de pierre, justement, pour la restauration de ce qui avait été
tout
brûlé.
Tout à fait.
Oui. J'ai vu certains reportages, c'était très intéressant.
Oui, c'était très bien,
c'était
très bien
les
fait.
Les compagnons
oui,
du
les
devoir.
Compagnons.
Oui.
Donc, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie, dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc, je vais vous faire une annonce pour un festival international du dragon.
Oh,
ça nous amène où, ça? Alors, c'est le 4e festival international de dragons, Boat, en France, 2026. Alors, la date, c'est dimanche 14 juin 2026. Alors, le lieu, c'est Quai du Halage, bord de Seine, à Ruelle-Malmaison. Donc, festival culturel du Hanwoon. Je pense que je le prononce bien, c'est en chinois. Hein. Alors, gastronomie, tradition, scène culturelle chinoise, cérémonie traditionnelle. Ce que je vous dis, festival culturel, c'est de 9h à 20h. Et une cérémonie traditionnelle de 13h30 à 14h30. Et une compétition internationale de dragons. Compétition internationale de dragons boat de 14h30 à 17h. C'est quand même.
Ils doivent être en papier, les dragons.
Je sais pas, je pense.
Pas possible,
hein, c'est les dragons.
Chinois, là, comme
chinois,
dans le Nouvel An chinois.
Mais immense.
Là, qui,
c'est...
Oui, c'est ça, c'est pour ça que je pense.
Des sculptures
c'est...
En papier,
je crois que
qui
c'est ça.
Volent de partout.
Je suppose.
Donc, c'est dimanche 14 juin, Quai du Halage, bord de Seine, rue Elmalmaison. Voilà.
Donc, c'est déjà une belle balade par là-bas, hein, en quai de Seine, c'est pas mal.
Ouais. C'est, je connais pas trop là-bas, hein, mais bon...
C'est joli.
C'est joli, hein. C'est... Voilà. Donc Iba, est-ce que vous avez donné des cours de sculpture?
Oui, mais très peu, très peu.
Parce que quand on donne des cours, c'est comme on fait que des cours, quoi, en fait.
Non, mais je veux pas, non, c'est pour ça. Je vous dis, je fais uniquement des...
Ça reste dans la famille, les cours,
quoi.
J'ai fait
quelques stages, voilà, quelques stages. Très peu. Et un petit groupe qui revenait à chaque fois dès que je disais, je vais faire un stage. Et puis voilà, et puis après...
Mais c'était des stages de modelage, alors?
Du modelage, oui, avec modèle vivant. Mais bon,
bien,
très très peu, j'ai pas le temps.
Ben voilà.
Pas le temps, c'est ça le problème, c'est pas le temps. Voilà.
Ouais.
Alors j'ai dit, il faut faire des choix, hein, où je travaille, j'expose.
Donc la retraite, vous connaissez pas le mot retraite?
Ah, pas du tout.
Pas du tout, ben non.
J'ai jamais pris ma retraite. Ça existe, ça?
Retraité confirmé. Non,
ils attendent la retraite à même.
Ouais, moi c'est pareil, hein, je sais pas ce que c'est.
Mais regardez, vos yeux ils brillent, et je suis sûre que les miens ils brillent aussi.
Ouais, oui.
Et ben alors, c'est ça qui est important,
c'est cette lumière-là.
Exactement, c'est ça qui importe.
Ouais, c'est...
J'ai hâte de remonter à cheval, voilà.
Ouais. C'est comme François Icard, que vous connaissez.
Bien sûr.
À qui on passe un grand bonjour.
Absolument.
Toujours dans le monde de la création.
Ah, complètement.
La poésie, la peinture, le dessin.
Voilà. Et les lettres.
L'association.
Les lettres, très, très, très érudits.
Bah, bien sûr.
Ah, c'est un vrai plaisir à chaque fois. Quel bonheur, François, tu nous manques.
Ah oui. Je l'ai assez souvent au téléphone, avec grand plaisir. Il
faudra l'embrasser pour moi.
Ouais. On parlera après, elle organise un concours de poésie, on va en parler là, dans
D'accord.
temps. Là. Et, Et donc voilà, on a tous nos prérogatives dans la vie, mais c'est l'art qui prime.
Complètement, c'est ce que ça prend le pas sur tout, voilà.
Et est-ce que dans le monde dans lequel on vit, les gens qu'on rencontre, est-ce que les gens s'intéressent vraiment à la culture, en gros comme ça, la vraie culture, hein, je parle. Hein.
Ça c'est un gros, c'est une grande phrase.
Hein.
C'est une très très grande phrase. C'est quoi la vraie culture déjà pour commencer?
Ce que vous faites, par exemple.
Sculpture alors ou
Sculpture, la musique.
Culture, la musique. En général. Un art de vivre.
L'art de vivre, oui. C'est quoi l'art de vivre?
Je suis pas certaine. Bon, je pense que oui quand même. Voyons, on va pas être défaitiste à ce point-là. C'est pas possible. Même si on est tiré par le bas, c'est ça qui m'ennuie.
Voilà.
C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on essaie de nous tirer vers le bas au lieu de tirer vers le haut. En tant qu'artiste, on a besoin de, au contraire, d'aller de l'avant.
Est-ce que l'artiste est défendu par des gens qui sont dans la culture? Est-ce que l'artiste est vraiment défendu?
L'artiste est le parent
pauvre. Est-ce qu'il y a une certaine forme d'art qui est plus défendue que d'autres?
Écoutez, aller à... comment ça s'appelle ce salon-là qui ramène que les milliardaires, là, qui est fait que pour les milliardaires.
La FIAC.
La FIAC, voilà.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que c'est là les artistes? Je ne sais pas. Il y a des choses que j'ai du mal à accepter au niveau artistique. On va montrer une pomme. Une pomme, ce n'est pas un bon exemple. Parce que
il y a la banane, hein, il n'y a pas longtemps.
Non, ben voilà, la banane.
La banane avec un scotch gris.
Voilà. C'est des choses comme ça où...
Je ne comprends pas, mais bon, voilà.
Il y a des tas de choses qu'on vous montre et on vous dit, c'est de l'art. Très bien. Alors, effectivement, le concept, on va pouvoir l'écrire, vous décrire sur le plan psychologique, sur le plan... On peut inventer ce qu'on veut.
Hein.
Et en fait, on a... Voilà.
On peut inventer ce qu'on veut.
C'est ce que je suis en train de vous dire.
Ouais, on peut.
Mais qu'est-ce qu'il y a comme créatif là-dedans? Il n'y a rien.
Il n'y a rien.
À la base, c'est un objet qui sert, qui est utilitaire, et on en fait une œuvre d'art, qu'on va vendre des millions et des millions. Voilà. Comparativement à un artiste, moi j'ai donné 3 ans de ma vie pour Molière. Vraiment 3 ans de ma vie.
Tous les jours?
Tous les jours, jusqu'à des minuit, 1h du matin.
Incroyable ça.
J'ai travaillé comme une malade là-dessus, vraiment comme une malade. Tellement bien que l'atelier, les gens qui passaient, parce que là-bas, il y avait tout un fief d'artistes cinématographiques et autres. Et...
Bon, on est venu vous filmer dans l'atelier?
Oui, ils sont venus me filmer, ils prenaient des photos à mon insu. C'est pas à mon insu. J'étais tellement absorbée par ce que je faisais que je ne calculais même pas. Donc, voilà. Et il se disait, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est folle.
Vous étiez avec quelqu'un d'autre?
J'étais complètement avec quelqu'un d'autre. Et en plus, j'avais une rage. Je prenais la terre, je la balançais, les 260 kilos de terre. J'en faisais des pavés, je les balançais comme ça sur Molière, ouais, avec une force, avec une. Qui se pendait, qui rentre dedans, vous voyez? Enfin, bon, bref. Il y a eu un corps à corps, vraiment un corps à corps avec. Mmh. Et puis je vous dis, ils se disent, elle est folle. Et quand ils regardaient ce que je faisais, après, quand ils sont passés, oh, c'est pas possible. Vous voyez, donc ils sont restés pantois. Et vous voyez comment ça part, moi-même, je ne sais pas comment ça part. Ça part d'une rage, de quelque chose, d'une... Là, en l'occurrence, c'était le 7 octobre qui m'avait... Le 7 octobre m'avait complètement retourné.
Ouais.
Et j'avais un besoin d'exulter. J'avais une violence qu'il fallait que je sorte. Et donc, ça s'est passé avec Molière, à qui j'ai envoyé des boulets de terre. Il était content parce qu'il s'en est bien sorti, lui. Lui s'en est très bien sorti.
Alors, ce Molière, il est où, là, maintenant, actuellement?
Alors, actuellement, il est encore à la fonderie, il va être inauguré cette année. Je n'ai pas encore la date. Dans la ville du Raincy.
Du Raincy?
Oui, voilà.
D'accord. À côté de Paris, oui. D'accord.
Voilà, exactement, dans le 9-3. Le Neuilly du 9-3.
Oui.
C'est une très, très, très belle ville que je vous invite à aller visiter, y compris son église. Je crois qu'il y a même du Chagall dedans et d'autres grands artistes qui ont œuvré également sur la ville du Raincy.
Chagall a fait des vitraux dans la cathédrale de Metz.
Aussi, oui.
Oui, et à la cathédrale de Phalsbourg aussi, il me semble. Phalsbourg, oui. Et Saint-Maximin à Metz aussi, c'est Cocteau qui a fait les vitraux. Enfin, pas tous les vitraux, mais il y a des vitraux de Cocteau.
Oui, il en a fait, oui, bien sûr.
C'était une parenthèse.
Mais c'est bien.
On a dit le mot de
Chagall. On aime bien ces parenthèses. Moi, quand on me dit, oh, on a vu les...
Donc ça va être...
Voilà, c'est pour Ibaz, c'est pareil.
Ça va être inauguré au Raincy, alors.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Je vais laisser une trace sur Terre, c'est important pour moi. C'est voilà. Ah, et oui. C'est après mon départ. Je n'ai pas d'enfants. Mes enfants, c'est mes sculptures.
Bah, pourquoi pas.
Bah, voilà. Donc c'est la trace que je laisserai sur Terre.
Bah,
voilà, en bronze, voilà.
D'accord. Alors, chers auditeurs, on parlait tout à l'heure de Françoise Icard, donc je vais rebondir sur Françoise Icard, qui donc organise avec l'Académie polonaise, alors pas que je me trompe, hein, donc c'est un concours, règlement du concours de poésie 2026 de l'Académie polonaise des sciences, Centre scientifique de Paris, PAN, et l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, AESAL. Voilà, AESAL, Iba.
Oui, AESAL.
Je me demandais tout à l'heure. Alors, à l'occasion du premier anniversaire du traité de Nancy, l'Académie polonaise des sciences, Centre scientifique de Paris, PAN, et l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres co-organisent un concours international de poésie ouvert à tous les poètes. Trois langues sont retenues, le polonais, le français et l'allemand. Alors, pour ce concours international, le thème suivant, c'est l'amitié. Donc, c'est bien.
Hein, bien.
En ce moment,
c'est bien. On en a besoin.
Donc, les textes doivent être dactylographiés sur papier blanc standard 80 grammes, au format A4. Alors, l'envoi de chaque participant devra se faire par courriel. Alors, notez bien. Alors, à courriel à AESAL. Alors, je répète, AESAL@gmx.com. AESAL@gmx.com ou à Madame Aldona Jankowska, secrétariat@paris.pan.pl. Alors, secrétariat@paris.pan.pl. Et donc, c'est au 74 rue Lauriston, 75-116 Paris. Et donc, je vous communique les téléphones. Alors, PAN, Paris Centre Scientifique, téléphone plus 33. Alors, 1-56-90-18-37. 1-56-90-18-37. Ça, c'est le secrétariat rue Lauriston. Et AESAL@gmx.com, téléphone 06-20-70-03-17, 06-20-70-03-17, 70 rue Jean Moulin, 75-014 Paris. Voilà. Donc, ça, c'était pour le concours de poésie. Donc, c'est la première année que Françoise lance ce concours.
C'est super.
Je trouve que c'est bien.
Mais il y a Arts Sciences Lettres également, donc...
Ça, c'est encore autre chose.
C'est encore autre chose.
D'accord, ok. Ça, c'est... L'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres.
Okay,
et les autres,
okay.
C'est sciences,
voilà.
Sciences arts et culture, ou je ne sais plus.
D'accord.
C'est encore un autre organisme.
Oui, okay.
Mais c'est toujours axé sur la poésie, la littérature.
Plus.
Ils font aussi des expositions de peinture, arts et sciences lettres. Arts et sciences lettres, je pense que ça s'appelle. Ils font aussi des expositions de peinture, il me semble. Et sculpture aussi.
Oui, arts et sciences lettres, oui.
Oui, oui.
Enfin, moi, je suis médaillée, j'ai la médaille de vermeil de arts et sciences lettres.
Académie
Arts Sciences Lettres.
Mais vous avez beaucoup de distinctions.
Oui, il y en a quelques-unes.
Énormément. Beaucoup l'invité d'honneur.
Quelques-unes.
Bah oui, quand même, depuis le... Vous êtes quand même connu.
Oui, bien sûr. Hein. Je trouve, oui, en peu d'années, finalement. Hein.
Mais bon, après, c'est que mérité. Hein. Bah oui, hein, vu le travail, que vous produisez tous les jours, en fait.
Tout le temps. Nuit et jour.
Dès le réveil au
même
matin.
Même quand je dors. Ben oui,
et en dormant, un rêve de sculpture.
Ben oui.
Ça arrive, hein.
Ben oui, bien sûr.
Ça peut...
Bien sûr. Ou alors, je ne vais pas dormir. Parce que, par exemple, quand j'ai fait Marcel Proust, je me levais à 2h du matin pour aller travailler sur mon bus parce que je voulais être en tête-à-tête avec Marcel. On avait un dialogue tous les deux.
C'est dingue, ça. Ouais, c'est... Ouais, Marcel Proust... je comprends. C'est un peu magique, hein, Marcel Proust.
Oui.
Et quand on lit À la recherche du temps perdu, on est ailleurs quand même.
Oui.
C'est...
Et est-ce qu'il ne faut pas se souvenir, pour ceux qui ne savent pas, hein, je ne sais pas, hein, il y en a qui se disent, mais À la recherche, c'est quoi ? Il ne sait rien.
Bah,
c'est tout simplement les souvenirs qu'il a
eu. C'est les souvenirs de la société dans laquelle il a baigné à l'époque.
Et puis avec sa mère.
Avec sa mère, oui, bien sûr.
C'est quand elle est morte qu'il a écrit À la recherche du temps perdu. Donc, c'est se rappeler des souvenirs. Alors, aujourd'hui...
La Madeleine. Il paraît que ce n'était pas une Madeleine.
Pas du tout, c'était une biscotte. Et elle était trempée dans de la tisane.
Je sais.
Bien sûr.
C'est incroyable, c'est comme on a déformé en fait. Hein.
Mais oui, mais c'est bien, écoutez la
masse. Tiens, en parlant de déformer, est-ce que dans la sculpture, vous déformez parfois ?
Bien sûr. Ah, mais bien
sûr. Bien sûr, j'étais sûr de la réponse.
Mais hein. Oui. Oui, je rajoute hein, en fonction de...
Rajoute, on enlève, ah, enfin
voilà,
bon, voilà.
Exactement.
Ouais. Mais il faut savoir où le faire.
Ah, évidemment, il faut bien le ressentir.
C'est comme un caricaturiste, pardon.
Oui.
Qui fait sa caricature, qui est ressemblante par rapport à la personne, mais il faut savoir où grossir le trait, où l'enlever, ou voilà.
Bien sûr.
C'est souvent où grossir le trait, hein, pour une caricature.
Oui. Vous savez, une fois, je me suis retrouvée avec un modèle, et elle était devant moi, et j'avais beau la regarder, mais j'avais l'impression qu'elle me regardait beaucoup plus que moi. Et en fait, je ne savais plus si c'était elle ou moi le modèle, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a toujours traversée.
Elle était imprégnée par votre travail, en fait, subjuguée.
On était toutes les deux, si vous voulez, on était toutes les deux... osmosé, comment expliquer
Un osmose. Il y a un échange qui se faisait.
Il y avait un échange, mais quelque chose qui était dérangeant quelque part, si vous voulez. Parce que, je vous dis, je ne savais plus qui était le modèle. C'était elle ou c'était moi Et elle devait avoir la même impression. Et ça se voit dans la sculpture que j'ai faite d'elle. C'était un portrait. Mais ça se voit. Il y a un côté énigmatique.
Alors, chers auditeurs,
non.
Les minutes passent vite.
Déjà ?
On est presque à la fin de l'émission, hein, donc on a l'impression que on a bien conversé, c'est sûr, mais on n'a pas tout dit quand même.
Oh, loin de là, loin s'en faut, bien sûr.
Est-ce que des visites d'atelier, vous faites pas ?
Non, du tout. Non, je peux inviter au...
Parce que, en fait, si vous faites des visites d'atelier, il faut expliquer, on perd le fil de sa création.
C'est ça.
C'est un peu, bon, parfois, c'est un peu compliqué, quand même.
Oui, non, mais c'est un choix. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre.
Vous n'avez pas fait ce choix-là. Vous avez des liens avec d'autres sculpteurs
Oui, et qui font ou qui ne font pas, d'ailleurs. Il y en a pas mal qui font le choix de ne pas faire de visite d'atelier. Sur demande, oui, je le fais. Mais sur demande express. Pas ouvert à tout public.
D'accord. Ouais. Donc, chers auditeurs, je vous repasse le message de la Galerie Violet, Donc, il se trouve à Pellevoisin. Donc, il y aura une exposition des photographies du père de Bérangère violée. Alors, 24 heures en 24 poses argentiques. Du 1er au 15 août 2026 à la Galerie Violet, Bérangère Violet, 36 rue Jean Giraudoux, 36 180 à Pellevoisin. Et donc, le téléphone 06 84 31 53 37, 35. 06 84 31 53 35 et bérangère.galerieviolet attaché @gmail.com. Voilà.
J'ai une exposition éventuellement où je vais être à la fin du mois de juin.
Alors il faut le dire.
C'est à la Ferté Gaucher.
Allez-y.
Avec le Lions Club. J'ai pas préparé l'adresse, mais bon, vous allez la retrouver facilement. La Ferté Gaucher, l'exposition.
Ça c'est quand?
Du Lions Club. Là au mois de juin. Vendredi, j'installe jusqu'au 14 juin.
D'accord. Le Lions Club à la Ferté-Gaucher.
Voilà, c'est
donc
ça.
Donc, si les gens contactent le Lions Club à la Ferté-Gaucher, ils peuvent avoir l'adresse.
Ouais, complètement. Façon, ou même en tapant sur Google, on va le retrouver.
IBA à la Ferté-Gaucher.
Voilà, je suppose.
Et là, on va trouver l'adresse.
Je pense.
Alors, chers auditeurs, IBA à la Ferté-Gaucher. Allez la voir.
La présidente, c'est Flore de Neubourg. Voilà, de Neubourg.
D'accord.
La présidente commissaire de l'exposition.
Allez voir les œuvres d'Iba, c'est exceptionnel.
Je serai ravie de vous recevoir. Ravie.
Elle sera ravie de vous redonner.
Le vernissage est prévu le samedi, si vous avez un peu de temps.
Le samedi quand
Le samedi qui suit.
D'accord.
L'installation, c'est le 4. Donc ça doit être le lendemain, je ne sais pas.
Oui, peut-être. Ouais. D'accord, c'est bientôt ça, c'est dans quelques jours.
Je peux regarder sur mon téléphone pour vous
donner. Non, mais on va trouver...
Oui.
Oui. Bon. Donc, Iba, on arrive à la fin de l'émission. Le dernier mot pour la fin.
Mais déjà, je vous remercie. Je vous remercie Radio Courtoisie de m'avoir accueilli et Michel Colombin. Ou avec ce sourire narquois, on n'a qu'une
mais
envie.
Non, pas
c'est
narquois.
Sympathique et brillant. On a envie de converser et de continuer encore.
Et puis, alors, on va remercier Benoît. Hein,
Benoît
qui est à la technique.
Merci, Benoît.
Au top, Benoît.
Et qui voilà. A trouvé les musiques qu'on voulait en plus.
Bah oui, en plus. Hein. Voilà. Chers auditeurs, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois, et à bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Beaux-Arts créé par Christian Langlois et dirigé par Michel Colombin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 2 juin 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.